J'aimerais parler ce matin sur comment faire pour pardonner. Dans Matthieu, chapitre 18, au verset 21, Jésus dit, il est écrit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa famille, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Amen. Nous le savons tous, nous avons tous été blessés dans la vie d'une manière ou d'une autre, soit par quelqu'un, ou par des circonstances, des événements difficiles, ou soit même au cours d'épreuves ou d'altercations, on a blessé d'autres personnes, parfois même sans le vouloir, à cause de paroles maladroites. Il y a aussi des susceptibilités, il y a des souffrances que l'on traîne depuis l'enfance, il y a des choses que l'on n'a pas déposées au Seigneur et qui font qu'on a des blessures profondes. Il y a aussi les différences de tempérament. Il y a des personnes qui ne veulent pas pardonner et qui entretiennent de l'amertume. Un peu comme ces gens qui souffrent encore aujourd'hui parce que quand ils étaient en maternelle, on leur avait pris leur goûter. Et ils se rappellent de cet événement et ça les fait souffrir. Mais nous, chrétiens, nous devons apprendre à pardonner, à tourner la page. Le pardon ne vient pas naturellement, car notre première pensée, c'est la justice. Il faut que justice soit faite, ou il faut se venger. Mais j'aimerais voir avec vous dans ce texte plusieurs points. Le premier point, c'est notre difficulté à pardonner. Pierre dit au Seigneur, est-ce qu'il nous faudrait pardonner jusqu'à 7 fois ? Et déjà pour lui, dans son esprit, il exprime que c'est un exploit surhumain de pardonner, non pas simplement 2 ou 3 fois, mais jusqu'à 7 fois, c'est vraiment énorme. Et c'est très difficile pour nous de pardonner jusqu'à 7 fois. Mais Jésus va aller au-delà de la compréhension humaine et dit, non pas, je ne te dis pas non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire d'avoir une attitude de pardon. C'est très difficile de pardonner quand on est blessé pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a une forme de souffrance qui est générée par la blessure, l'offense, et cela est très difficile à surmonter. Il y a quelquefois l'orgueil qui vient s'en mêler, la susceptibilité si on a été vexé, et en nous ce désir de justice qui est inscrit dans nos gènes. Par exemple, si vous avez des enfants et que vous partagez un gâteau et vous donnez une grande part au premier et deux petites parts au suivant, immédiatement, ils vont sentir qu'il y a une injustice. Il est privilégié. Il a plus. Un petit peu comme ça s'est passé, vous savez, dans l'Ancien Testament, avec l'histoire de Joseph. Il est dit que Jacob l'aimait plus que les autres et lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Immédiatement, les autres frères ont été jaloux Et ils n'ont pas compris pourquoi il y avait un préféré, pourquoi lui avait plus que les autres, on était dans la même famille, et cela a généré beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Donc il y a un sentiment qui est attaché à nos gènes, qui est la justice, l'équité. On voudrait que tout le monde soit traité pareil. Et si on est offensé, eh bien automatiquement c'est le désir de vengeance. La Bible nous rapporte l'histoire des deux premiers enfants qui sont venus sur la terre, c'est-à-dire Abel et Caïn. Il n'y avait pas tant de monde que ça encore sur la terre, ils n'étaient que quatre. Il y avait Adam, Ève, Abel et Caïn. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de se disputer. En tout cas, les deux frères se sont disputés. Caïn, qui était jaloux de son frère Abel à cause de l'offrande qui était montée vers Dieu, agréée de Dieu. Et il a été tellement jaloux qu'il en a voulu à sa vie et il a tué son propre frère. Ce péché a été, bien sûr, dévoilé par Dieu. Et la Bible dit que Caïn, à cause de son péché, il a fui loin de la face de l'Éternel. Mais si on regarde bien ce texte, nous voyons que Caïn transportait avec lui une amertume et un désir de vengeance. Et non seulement ça lui a fait du mal parce qu'il s'est éloigné de la face de l'Éternel, mais ça a fait du mal à toute sa famille, car il a transmis cette amertume à ses enfants, qui l'ont transmise à leurs enfants. Si bien que si vous regardez quelques générations plus tard, dans Genèse chapitre 4 et au verset 23, seulement quelques générations après Caïn, Lémec arrive, il dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » On voit donc dans la lignée de Caïn cet état d'esprit de vengeance, un état d'esprit qui ne pardonne pas, un état d'esprit qui a de la haine, qui tue. Et en fait, il a transmis cela au travers de son manque de repentance. Il n'a pas voulu revenir à Dieu, demander pardon. Il a choisi de vivre dans le ressentiment. Et on peut dire qu'il a entraîné avec lui toute sa famille dans la perdition. Finalement, cette famille s'est éloignée de Dieu. Les conséquences, en fait, d'un manque de pardon, non seulement vont être nuisibles à notre propre vie, mais vont affecter notre épouse, notre conjoint, mais aussi nos enfants, et voir jusqu'à nos descendants si nous persévérons dans ce manque de pardon. Hébreux chapitre 12 l'explique comme cela, au verset 15. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Alors qu'est-ce que veut dire ce texte? Eh bien, quand nous entretenons l'amertume, nous allons nous détruire nous-mêmes, mais nous allons aussi infecter notre entourage et ça va être mauvais pour toutes les personnes qui nous entourent. Alors ne croyez pas que l'amertume, on peut passer par-dessus, c'est quelque chose de banal, ce n'est pas grave. En fait, la Bible dit l'amertume, c'est un poison mortel et si nous ne nous en délivrons pas, si nous ne prions pas Dieu pour en être débarrassés, eh bien ça nous entraînera dans la mort spirituelle, ça nous entraînera loin de la face de l'Éternel comme Caïn, ça nous entraînera dans le péché. Et même notre entourage se détournera de Dieu. C'est comme ce couple qui avait eu un problème dans l'église qu'ils fréquentaient et ils étaient devenus amers. Et ils étaient tellement devenus amers qu'ils en parlaient à table, ils en parlaient autour d'eux, si bien que leurs enfants ont généré eux-mêmes une sorte d'aversion pour l'église et que leurs propres enfants ne se sont jamais convertis, mais ils se sont éloignés de la face de Dieu et ils ont fini dans le monde, loin du Seigneur. Cette amertume qui a été développée par ces deux chrétiens à la base a généré une mort spirituelle qu'ils ont semée autour d'eux. Mais ça, c'est un choix de vie. Et j'aimerais vous dire ce matin que le pardon, c'est aussi un choix de vie. On peut choisir de pardonner, on peut prendre la décision de pardonner. Personne ne peut vous forcer à le faire, mais vous pouvez prendre la décision de le faire. Quelqu'un dira peut-être, oui, mais c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais. C'est vrai, nous pouvons dire humainement, nous n'y arriverons pas, mais dans ce cas, il y a le secours de Dieu qui peut nous aider à pardonner. C'est ce témoignage qu'une chrétienne a écrit dans un livre qui s'appelle « Grande voyageuse devant l'Éternel », Corinne ten Boom. qui a reçu du Seigneur dans le cœur après la Deuxième Guerre mondiale, où elle avait gardé des gens chez elle pour les protéger de la Gestapo, parce qu'ils chassaient les Juifs. Elle en avait donc caché dans sa maison avec son père. Ils ont été pris par la Gestapo et mis dans le camp de Ravensbrück, où elle a vu sa sœur mourir là-bas, son père est mort là-bas. Et lorsqu'elle est sortie de là, le Seigneur lui a mis à cœur de parler sur le pardon. Et particulièrement d'aller en Allemagne pour prêcher, pour annoncer ce sujet. Et elle avait cette expression en disant « Nos péchés ont été jetés au fond de la mer et Dieu a mis un écriteau avec marqué « pêche interdite ». C'est bien formulé. Mais elle parlait du pardon dans une conférence un certain soir. Et à l'issue de la soirée, en saluant les gens, elle reconnaît le gardien de Ravensbrück qui l'avait fait souffrir, elle et sa famille. Et cet homme lui dit, voilà, j'étais gardien à Ravensbrück. Donc lui ne la reconnaît pas, elle la reconnaît, le reconnaît. J'ai entendu que vous avez parlé du pardon, je suis devenu chrétien, je sais que Dieu m'a pardonné de mes péchés. Mais est-ce que vous pouvez me pardonner? Et là, elle explique qu'elle ne pouvait pas lui pardonner. Elle ne pouvait pas lui pardonner humainement. Alors elle écrit dans son livre que comme un automate, elle a tendu la main, machinalement, comme pour obéir à Dieu, et elle a senti quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que humainement, elle ne pouvait pas pardonner, mais elle a senti comme un courant qui passait en elle, qui allait de son épaule à son bras, à sa main, et elle a chaleureusement pris la main de cet homme, et elle lui a dit « Je vous pardonne de tout mon cœur ». Et en fait, elle a ressenti l'amour de Dieu pour cet homme dans son cœur. Et ce qu'elle explique, qui est très intéressant dans son livre, c'est qu'à partir du moment où elle a renoncé à l'amertume et elle a pardonné pour de bon, non seulement son cœur a été touché, bouleversé, elle s'est mise à pleurer, mais elle a ressenti la joie du Saint-Esprit, elle s'est ressentie rajeunir de 10 ans et elle a eu une onction particulière dans son service, dans la suite, dans le cours des années qui ont suivi. Donc on voit que ce pardon libère. Ce qu'elle a vécu, bien sûr, c'est extrême, parce que nous ne sommes pas tous confrontés à ce type de personnes qui nous ont fait du mal, autant que ça. Mais néanmoins, la démarche sera la même, c'est-à-dire que même si dans notre cœur, c'est difficile, nous pouvons faire la démarche, tendre la main, et nous croyons que Dieu viendra à notre secours pour faire ce que nous ne pouvons pas faire, remplir notre cœur de son amour et pouvoir accorder le pardon qui libère. Non seulement ça libère cet homme qui était pécheur et qui demandait pardon, mais ça libère cette femme qui avait quand même dans son cœur gardé du ressentiment et de l'amertume à cause de cette situation. Le deuxième point, c'est les raisons du pardon. Alors, Jésus prend l'exemple d'un roi qui va faire rendre des comptes à son serviteur, l'un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. La première raison pour laquelle le roi va pardonner, ça va être la compassion. Car cet homme qui devait 10 000 talents, c'est-à-dire plusieurs millions d'euros, ça représente chacun de nous. Il avait une dette tellement immense qu'il ne pouvait pas payer. Et en fait, ça représente nos péchés vis-à-vis de Dieu qui sont tellement énormes que personne ne peut les effacer devant Dieu. Ce sont nos péchés en pensée, en parole ou en action. C'est un peu comme si nous avions une dette à l'égard de Dieu. D'ailleurs, la fameuse prière du Notre Père que Jésus nous a enseignée, on traduit généralement « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Mais littéralement, Jésus dit « Remets-nous nos dettes ». Nous sommes en dette à cause de nos péchés, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous ont offensés. Donc il y a cette notion de remettre des dettes. Personne ne peut payer ses dettes. Même pas la religion. La religion, il y a plus de 10 000 religions qui existent dans le monde. Ce sont des tentatives pour effacer le péché, en faisant des efforts, des prières, des jeûnes. Mais cela n'apporte pas la solution. Or, Jésus l'a fait pour nous. Comment a-t-il fait? Eh bien, Jésus l'a fait par grâce. Il est venu mourir à la croix. Son sang précieux a été versé. Et par son sacrifice, qui est tellement puissant, nous pouvons aujourd'hui être pardonnés de tous nos péchés. Et c'est vrai pour nos péchés, mais ceux du monde entier. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Jésus, donc, a effacé toutes nos dettes. Pour résumer, la religion dit « payer tout pour être sauvé », mais dans la Bible, c'est dit « Jésus-Christ a tout payé pour que nous soyons sauvés ». Il suffit de croire. La compassion que Dieu a envers nous, il désire que maintenant elle soit dans notre cœur pour les autres. Et on voit que ce roi, quand il a vu ce serviteur demander pitié, il a eu compassion de lui et il lui a fait grâce, il a effacé sa dette de plusieurs millions d'euros. La compassion de Dieu doit être dans nos cœurs. 1 Pierre chapitre 3 versets 8 à 9. C'est Pierre qui dit « Enfin, frères et sœurs de Toulouse-Ouest, soyez animés des mêmes pensées. » C'est moi qui ai rajouté « frères et sœurs de Toulouse-Ouest. » « Et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Eh oui. Si Pierre écrivait à notre Église, certainement qu'il pourrait introduire par cette expression « Frères et sœurs de Toulouse-Ouest, soyez tous animés des mêmes pensées. » Car l'amour fraternel, ce n'est pas juste réservé à l'époque du Nouveau Testament, mais c'est vrai pour tous les temps, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et je dirais, ce n'est pas juste un amour sentimental, mais c'est une décision d'aimer nos frères et sœurs. Et je rajoute, malgré leurs défauts. Car regardez vos frères et sœurs autour de vous, mais c'est certain qu'ils ont tous des défauts. Nous en avons tous. Mais la parole de Dieu ne nous dit pas de nous aimer parce que nous n'avons pas de défauts, mais elle nous dit de nous aimer. Alors des fois c'est compliqué, parce qu'on n'est pas dans la même pensée, on n'est pas dans les mêmes compréhensions des choses. Et puis il y a des tempéraments, il y a des chrétiens parfois, ils sont un peu comme les hérissons. Quand vous vous approchez, ils se mettent en boule et puis il y a des épines qui sortent. Alors si vous vous approchez trop près, ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'amour fraternel, c'est aussi le respect des différences, la compréhension. Peut-être si cette personne réagit ainsi, c'est qu'elle a elle-même une souffrance qui n'est pas guérie. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose de difficile, nous ne savons pas. Or, nous devons apprendre à nous aimer avec nos différences. Moi, j'aime beaucoup... regarder la création de ce que Dieu fait. Et particulièrement, j'ai eu l'occasion de visiter un aquarium géant quand j'étais à Saint-Malo. C'est un endroit où il y a énormément de poissons différents. Et c'est extraordinaire de voir les différences entre les poissons. Alors pour nous, ça ne dit pas grand-chose parce que souvent, on ne les voit pas, ils sont sous l'eau. Mais pourquoi des poissons tellement différents? Il y en a de plusieurs couleurs, il y en a de formes différentes. Il y en a des très gros et puis il y en a des tout petits. Et finalement, ça nous parle de que Dieu est un créateur et qu'il fait les choses d'une manière diverse et variée. Mais quand vous regardez l'Église, parce que le poisson, c'est aussi le signe du chrétien, vous savez. Mais les chrétiens sont tous différents les uns des autres. Mais j'ai regardé un article qui parlait des poissons et ils ont découvert une sorte de poisson tout à fait extraordinaire. C'est la sole de Moïse dans la mer Rouge. C'est un petit poisson insignifiant, assez banal comme ça. Mais en réalité, il est doté de quelque chose d'extraordinaire. Ce petit poisson, dans les années 70, les scientifiques ne comprenaient pas pourquoi ce petit poisson se développait plus que les autres, alors qu'ils étaient habituellement mangés par les requins, les poissons de cette taille. Eh bien, ils ont découvert la raison, c'est que ce petit poisson a en lui une toxine qu'il dégage quand il est en danger, une toxine qui paralyse quelques secondes la mâchoire du requin et qui lui permet d'échapper à son prédateur. Et ce petit poisson, il a quelque chose de plus que les autres, ce qui fait que ça lui permet d'échapper à ses prédateurs. Vous voyez, ça, c'est la grâce de Dieu dans la création. Lui, il était petit, il était peut-être plus en danger que les autres, il pouvait mourir plus facilement, mais Dieu a mis en lui quelque chose qui lui permet de résister à ses prédateurs que les autres n'ont pas. Ça, c'est la diversité, c'est extraordinaire, c'est ce que Dieu fait. Et c'est important de considérer les choses que Dieu fait, de ne pas rester dans nos pensées de découragement, des pensées négatives. C'est important d'éduquer nos pensées pour ne pas voir toujours le mal chez les autres, ou le pire. Il y a une histoire qui est arrivée dans Josué, chapitre 22. Les Israélites avaient conquis le pays de Canaan. Mais il y a trois tribus qui étaient restées à l'extérieur, à l'est du Jourdain. C'est Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Et ils avaient érigé un immense autel à la frontière entre les deux les deux camps, et ceux qui étaient de l'autre côté du Jourdain, donc les 10 tribus d'Israël, ils ont vu ça d'un mauvais œil, et immédiatement ils ont voulu aller faire la guerre et frapper leur frère qui avait osé construire un autel, et que c'était comme s'ils voulaient faire leur culte à eux et abandonner le culte de l'Éternel. Alors ils viennent vers eux, ils leur disent, mais ils dépêchent 10 princes, ils leur parlent de leur infidélité, vous vous êtes détournés de Dieu, vous avez construit cet autel, vous vous révoltez contre l'Éternel. Mais les autres vont s'expliquer et disent, mais pourquoi vous nous attribuez des intentions aussi mauvaises? La réponse, c'est que cet autel, ce n'était pas pour faire des sacrifices. Ils avaient construit cet autel, c'était pour que leurs descendants se souviennent qu'ils appartenaient au peuple de Dieu. C'était dans un but donc positif. Cet autel servira de témoin entre vous et nous. C'est un autel qui servira d'alliance. Et quand ils ont entendu l'explication, ils ont été rassurés. Et ils sont repartis dans la paix. Et ils ont appelé ce nom de l'autel Ed, c'est-à-dire le témoin. Mais voyez, ils avaient attribué des mauvaises intentions qui n'étaient pas vraies. Et ça peut nous arriver aussi. Et pourquoi nous avons des préjugés ou des mauvais sentiments? Parce que nous attribuons à des personnes des intentions qui ne sont pas bonnes, alors qu'elles ne sont pas dans ces mauvaises intentions. Et ça, c'est à nous de canaliser nos pensées, peut-être demander une explication, comme ils l'ont fait. Ils sont allés les rencontrer, pourquoi faites-vous un hôtel? Mais quand même... Ils auraient pu le demander d'une autre manière. Ils étaient assez agressifs. Ils les traitaient d'infidèles. Ils voulaient leur faire la guerre. Ils n'étaient pas dans un bon état d'esprit quand ils sont venus. Il a fallu que Dieu mette sa paix dans les cœurs. Donc ça, c'est à nous de travailler aussi dans notre cœur pour avoir des sentiments d'amour, des sentiments d'affection. Alors comment faire, comme dit ce texte, on a dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Comment faire pour ne pas rendre le mal? Eh bien, priez Dieu qu'il nous aide à avoir la compassion de Dieu dans notre cœur. Demandez son secours. Car Paul nous demande de bénir. Il dit, bénissez et ne maudissez pas. Ça, c'est une position spirituelle. C'est un choix de vie. L'ennemi vous dira, oui, mais ça ne sert à rien de bénir. Maudis-le. Hein, c'est comme la femme de Job avait dit, elle avait dit à Job, son épouse, ben, maudis Dieu et meurs. C'était naturel parce qu'ils avaient tellement souffert. Mais ça, c'est la pensée du malin. Et nous devons rejeter cette pensée de malédiction. Car quand vous maudissez les autres, en fait, vous vous faites du mal à vous-même. Quand vous participez au discours de haine ou de critique ou de malédiction, en fait, vous vous faites du mal à vous-même. Et si vous voulez protéger votre âme, eh bien, vous devez pardonner et bénir. Peut-être, on ne peut pas empêcher tout le monde de dire du mal. Il y en a peut-être qui disent du mal de vous en ce moment. Vous ne le savez pas, ils le disent derrière vous. Ça, on ne peut pas, ça nous échappe. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut faire, c'est nous abstenir de dire du mal et ne pas rentrer dans ces conciliabules. Il est très probable que ces gens qui disent du mal des autres quand vous êtes là, et si vous participez avec eux à dire du mal, quand vous ne serez plus là, c'est de vous qu'ils diront du mal. Donc, vous participez à leurs mauvaises œuvres. Et vous vous rendez complice. C'est pourquoi soyez vigilants. Préservez votre âme de ce que les gens vont dire et ne participez pas à leurs mauvaises œuvres. Le deuxième élément, la deuxième raison plutôt, pour laquelle nous devons pardonner, les raisons du pardon. Donc la première, j'ai dit, la première raison, c'est la compassion. La deuxième raison, c'est on doit pardonner parce que c'est un commandement de Dieu. Éphésiens, chapitre 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, tous ces éléments, c'est traduit aussi la mauvaise humeur, l'aigreur, la rancune, les explosions de colère. C'est différentes traductions, mais qui parlent de ces mêmes choses. Alors, nous devons vivre en disciples de Christ. Nous savons que ces choses existent. Mais dans le mot disciple, ça a donné le mot discipline. Et nous, chrétiens, nous devons avoir une vie disciplinée. Donc, il y a des principes de politesse, d'aimabilité, dire bonjour, prendre des nouvelles, avoir du respect pour les aînés. C'est bien expliqué dans la parole, dans 1 Thessaloniciens 5, 12, honorer ceux qui servent, ceux qui dirigent. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix avec tous. Tous ces conseils ne sont pas anodins, car si nous ne veillons pas, nous pouvons avoir une attitude déplacée, impolie, inacceptable en fait, dans la maison de Dieu. Et c'est à nous d'avoir une attitude paisible, d'honorer, par exemple d'honorer les cheveux blancs, d'avoir cette sagesse dans nos propos, dans nos comportements, de ne pas laisser la colère nous diriger dans nos paroles, nous manipuler. Nous devons donc être vigilants, car l'ennemi, il utilise beaucoup ça pour détruire l'œuvre de Dieu. Un quatrième point dans notre texte, après les raisons du pardon, c'est les raisons du manque de pardon. Car cet homme qui a été pardonné ne vit pas le pardon. Lorsqu'il voit un compatriote qui lui doit 100 deniers, c'est-à-dire quelques centaines d'euros, une petite somme, eh bien, il va exiger maintenant qu'il lui rembourse sa dette et l'autre qui va lui demander pitié, il ne va pas avoir pitié et il va le jeter en prison. Il ne vit pas dans le pardon. Pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles il ne pardonne pas ? Parce que son cœur est dur, parce qu'il a des pensées de vengeance. Lui-même pourrait dire, moi, avec ce que j'ai vécu, je pourrais au moins tendre la main. Non, il est dans un autre état d'esprit. Il ne veut pas faire grâce. Et en ne pardonnant pas l'autre, il va se punir lui-même. Ça, c'est la suite du récit. Parce qu'il est amer, il est malheureux, il souffre, et le roi va le convoquer et lui dire, mais toi, moi, je t'avais pardonné, ne pouvais-tu pas pardonner à ton frère ? Et la sanction va être terrible pour lui, puisqu'il va être jeté au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc, il va subir lui-même la conséquence de son manque de pardon, et il va souffrir davantage. La conséquence pour le serviteur, si nous ne pardonnons pas, ce sera pareil, nous serons livrés au bourreau, c'est-à-dire nous serons livrés à notre ennemi, à nos adversaires. Et là, nous serons en grande difficulté. Si nous ne pardonnons pas, même Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Et le manque de pardon non seulement nous fera souffrir, mais nous entraînera dans la perdition. Certains même sont malades par des maladies psychosomatiques parce qu'ils n'ont jamais voulu pardonner. Et on peut prier pour eux et demander à Dieu sa grâce, mais tant qu'ils ne voudront pas demander pardon, en fait, des fois, c'est l'obéissance qui permet le pardon. Même pas seulement la prière. La prière ne produira pas son fruit si elle n'est pas accompagnée de l'obéissance. Pardonne pour que tu sois libéré. Pardonne pour que tu sois guéri. Celui qui ne pardonne pas, donc, se fait du mal à lui-même. Ça peut nuire à sa santé. Et il ne va pas faire confiance aux autres, il va être méfiant, il va vivre replié sur lui-même. Je termine avec une dernière pensée, c'est la nécessité du pardon sous trois axes. Le premier axe, c'est que nous devons pardonner dans l'Église. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Il parle à des chrétiens. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, allez le dire au pasteur. C'est comme ça ? Ah non. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre. Alors, est-ce que vous avez des sujets de vous plaindre de quelqu'un ? Ça peut arriver. Hein ? Alors, il va falloir s'expliquer et pardonner. Ça, c'est dans l'Église. Car on ne veut pas laisser le manque de pardon amoindrir notre relation avec Dieu. Ça va briser la communion, ça va faire du mal autour de nous. Alors on aura des sujets de se plaindre. Mais si on a des sujets de se plaindre, on peut dire merci Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir mettre en pratique ce verset. Que dit ce verset ? Pardonnez-vous réciproquement. Voilà. Voilà ce que nous devons faire. Et nous serons toujours dans des situations où Dieu permettra que nous puissions mettre sa parole en pratique. Et lorsqu'on a réussi à un certain niveau, merci Seigneur, on a supporté un cas très difficile, eh bien Dieu permet qu'il y ait un autre niveau qui arrive, mais du niveau supérieur. Et là, il va falloir encore supporter pour une autre étape. Mais nous passons les étapes. Et c'est pourquoi il est dit de Moïse qu'il était devenu l'homme le plus patient de la terre. Oui, mais il était passé par de nombreuses étapes avant d'arriver à être le plus patient de la terre. Et Dieu nous permet ces étapes pour nous faire grandir, pour nous permettre de pardonner réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, nous devons pardonner à notre frère. Donc, premier axe, pardonner dans l'Église. Deuxième axe, pardonner dans le couple. Colossiens chapitre 3, versets 18 à 19. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. » Voilà quelquefois que dans les couples, il y a des disputes qui surviennent. Et la dispute peut être tellement violente qu'il y a des assiettes qui volent à travers l'appartement. Il ne faut pas laisser la colère dominer. Parce que même, des fois, je rencontre des fois des couples, mais même la pensée de la séparation, elle vient du diable, frères et sœurs. Et la pensée, si je me sépare, je serai plus heureux, c'est faux. C'est faux. Il faut régler les problèmes. Il faut régler les tensions. Il faut dépasser les divisions et arriver à s'aimer par-delà les différences. C'est ça la volonté de Dieu. Et si nous ne sommes pas résolus, si nous ne sommes pas armés de cette pensée, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2-3 ans, des fois de mariage, il y a des gens qui se séparent ou ils divorcent. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que nous soyons unis et que nous arrivions à nous pardonner les uns les autres. Alors si c'est le cas, eh bien faisons-le. N'ayons pas cette pensée. Parce que vous savez, l'ennemi utilise ça pour diviser des couples. Et pour peu qu'au travail, il y ait une femme qui soit très sympa avec le mari, une collègue, et que lui, ça se passe mal à la maison, eh bien, il va avoir des mauvaises pensées, voire une pensée de séparation, d'aller avec une autre femme. Cela vient du diable pour diviser les familles. Ou voir dans le sens inverse, la femme qui n'est pas heureuse dans son foyer, qui va avoir un collègue très gentil, qui va lui servir le café et des petits gâteaux, elle va être touchée. Au moins, lui, il prend soin de moi. Eh oui, mais non. Il y a le mari qui est là. Et nous devons rejeter cette pensée. Mais ça, c'est une pensée que le malin va utiliser pour diviser les couples. Donc, soyons vigilants et apprenons à pardonner, apprenons à nous aimer et à continuer notre vie de couple. Dans l'Église, nous devons comprendre que Dieu veut des couples en Christ, des couples solides, des couples qui tiennent bon dans les difficultés, qui savent se demander pardon. Il y aura toujours des heurts, il y aura toujours des difficultés, mais nous devons apprendre à pardonner et à nous aimer. Et enfin, au travail, Éphésiens chapitre 6, verset 5, troisième axe, serviteurs, on pourrait dire ouvrier, bénissez vos maîtres ou vos patrons selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de vos cœurs, comme Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Alors il y a toujours des collègues peut-être difficiles qui sont là ou des personnes qu'on ne supporte pas, ou alors c'est le supérieur qui nous veut du mal, qui vous persécute. Mais il ne faut pas céder à la colère. Et ça serait faire l'œuvre du diable. Mais des fois, nous sommes testés aussi dans notre endurance à supporter. Supporter, parce que c'est facile, quand tout va bien, d'être chrétien et de témoigner de l'amour de Dieu. Mais quand il y a de l'injustice, des calomnies, du dénigrement, eh bien, il va falloir persévérer, être patient. Pourquoi ? La Bible nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, quand est-ce qu'on va exercer la maîtrise de soi? Eh bien, quand on est victime de ces injustices. La bienveillance, rendre le bien pour le mal. Quand est-ce qu'on va l'exercer? Eh bien, quand on traverse ces moments difficiles. Alors, cherchons plus à plaire à Dieu avant toute chose. En conclusion, le diable, lui, fera tout pour nous empêcher de pardonner. Cela va nous affaiblir. Si nous ne pardonnons pas, nous allons devenir une proie facile. Mais j'aimerais vous dire, pardonner, c'est une décision, et si nous la prenons, nous deviendrons plus forts, nous serons dans le plan de Dieu, et Dieu nous fera grandir dans ses voies, dans son œuvre. Mais c'est une décision qu'on doit prendre aujourd'hui, moi je dirais même chaque jour, parce qu'il faut le renouveler, et c'est la volonté de Dieu. Je vous invite à prier un instant, on va demander au Seigneur encore son secours, sa grâce. Merci pour ta parole qui nous montre la voie du pardon. Nous comprenons que c'est une décision, que c'est une volonté que nous devons enclencher, engager. C'est une attitude de cœur que nous devons avoir envers nos frères, nos sœurs. Mais Seigneur, nous te prions pour celui ou celle qui n'arrive pas à pardonner, qui est bloqué dans son avancée, dans sa vie chrétienne, qui est en train de vivre cette amertume. Bien, je te prie, Seigneur, de faire ton œuvre de restauration, de guérison, de permettre, Seigneur, bien que nos cœurs soient libres, que nos cœurs soient nets, afin de ne pas avoir de ressentiment, afin de pouvoir nous aimer, comme dit ta parole, les uns les autres, d'un amour fraternel sincère, afin de vivre comme dans cette famille de Dieu, unis les uns les autres, nous soutenant les uns les autres et nous bénissant les uns les autres. Dans le nom de Jésus, Amen.